L'hoste du régent fait un prisonnier.
Le chaume pourrissait, grisâtre, sur les champs argileux et dénudés. De lourdes nuées roulaient dans le ciel d'automne, et l'on eût dit que là-bas, au bout du plateau, le monde finissait. Le vent aigrelet, soufflant par courtes bouffées, avait un arrière-goût de fumée. En avant du village de Bouc-Maison, à l'endroit même où 3 mois auparavant le contrebert était entré en Artois, l'armée du régent se tenait déployée en bataille, et les pennons frissonnaient au sommet des lances sur près d'une demi-lieue de front. Philippe de Poitiers, entouré de ses principaux officiers, se trouvait au centre, à quelques pas de la route. Il avait croisé ses mains gantées de fer sur le pommeau de sa selle. Il était tête nue. Un écuyer derrière lui portait son aume. « C'est donc ici qu'il t'a affirmé qu'il viendrait se rendre ?» demanda le régent à Robert de Gamache, rentré de sa mission le matin. « Ici même, monseigneur, » répondit le second chambellan. « Il a choisi le lieu dans le champ auprès de la borne que surmonte une croix, » m'a-t-il dit, « et il m'a assuré qu'il y serait à l'heure de tierce. » « Et tu es certain qu'il n'existe point d'autres bornes surmontées de croix dans les alentours, car il serait bien capable de nous jouer là-dessus, d'aller se présenter ailleurs et de faire constater que je n'y étais pas. Tu penses vraiment qu'il viendra ?»« Je le crois, monseigneur, car il semblait fort ébranlé. Je lui ai dénombré votre hoste, je lui ai représenté aussi que monseigneur le connétable tenait les lisières de Flandre et les villes du Nord, et qu'il serait donc saisi comme entre pinces affairées, sans pouvoir même fuir par les portes. » Je lui remis enfin la lettre de monseigneur de Valois, lui conseillant de se rendre sans combat, puisqu'il ne pouvait qu'être battu, et l'informant que vous étiez si courroucé contre lui qu'il devait craindre, si vous le preniez en armes, d'avoir la tête tranchée. Et ceci a paru beaucoup l'assombrir. Le régent inclina un peu son long buste vers l'encolure de son cheval. Décidément, il n'aimait pas porter ses vêtements de guerre, dont les 20 livres de fer lui pesaient aux épaules et l'empêchaient de s'étirer. Il s'est retiré alors avec ses barons, poursuivit Gamache. Et je ne sais point vraiment ce qu'ils se sont dit, mais j'ai bien compris que certains lui faisaient défaut, tandis que d'autres le suppliaient de ne pas les abandonner. Enfin, il est revenu à moi et m'a fait la réponse que je vous ai portée, en m'assurant qu'il avait trop grand respect de monseigneur le régent pour lui désobéir en rien. Philippe de Poitiers demeurait incrédule. Cette soumission trop facile l'inquiétait et lui faisait redouter un piège. Plissant les paupières, il regardait le triste paysage. L'endroit serait assez bon pour nous tourner et nous tomber sur le dos pendant que nous sommes ainsi plantés à attendre. « Corbeil, Clichy !» dit-il, s'adressant à ses 2 maréchaux. « Dépêchez quelques bannerets en reconnaissance par les 2 ailes et faites fouiller les vallons pour vous assurer qu'aucune troupe ne s'y trouve muchée ni ne chemine sur nos routes de revers. Et si, à tierce sonner au clocher qui est derrière nous, Robert ne s'est pas présenté, ajouta-t-il pour Louis d'Evreux, nous nous mettrons en marche. » Mais bientôt on entendit des cris dans les rangs des bannières. « Le voici ! Le voici !» Le régent de nouveau plissa les paupières, mais ne vit rien. « En face, monseigneur, lui dit-on, juste au droit de votre monture, sur la crête !» Robert d'Artois arrivait sans compagnon, sans écuyer, sans même un valet. Il avançait au pas, droit sur son immense cheval, et paraissait dans cette solitude plus grand encore qu'il n'était. Sa haute silhouette se détachait rougeoyante sur le ciel tourmenté, et il semblait que la pointe de sa lance accrochât les nuées. « C'est encore manière de vous narguer, monseigneur, que d'arriver ainsi devant vous. »« Eh, qu'il me nargue, » répondit Philippe de Poitiers. Les chevaliers envoyés en reconnaissance revenaient au galop, assurant que les environs étaient parfaitement tranquilles. « Je l'aurais cru plus acharné dans la désespérance, » dit le régent. Un autre, voulant faire étalage de panache, ce fut sans doute vers cet homme seul, avancé seul. Mais Philippe de Poitiers avait une autre conception de sa dignité, et ce n'était pas un geste de chevalerie qu'il lui importait d'accomplir, mais geste de roi. Il attendit donc, sans bouger d'un pas, que Robert d'Artois, tout boueux, tout fumant, s'arrêta devant lui. L'armée entière retenait sa respiration, et l'on n'entendait que le cliquetis des morts dans la bouche des chevaux. Le géant jeta sa lance sur le sol. Le régent contempla cette lance dans le chaume et ne dit rien. Robert détacha de sa selle son aume et sa longue épée à 2 mains et les envoya rejoindre la lance. Le régent se taisait toujours. Il n'avait pas relevé les yeux vers Robert. Il gardait le regard rivé sur les armes comme s'il attendait encore autre chose. Robert d'Artois se décida à descendre de cheval, fit 2 pas en avant. et les nerfs tremblants de colère, finit par mettre un genou en terre pour rencontrer les yeux du régent. « Beau cousin !» s'écria-t-il en ouvrant les bras. Mais Philippe l'arrêta court. « Mon cousin, n'avez-vous pas faim ?» lui demanda-t-il. Et comme l'autre, qui s'apprêtait à une grande scène avec échange de paroles nobles, relevage, accolade chevaleresque, restait tout stupéfait, Philippe ajouta « Alors rehaussez-vous en selle et gagnons au plus tôt Amiens, où je vous dicterai ma paix. Vous marcherez à mon flanc, et nous mangerons en route. »« Héron, gamache, ramassez les armes de mon cousin.